Alors, avant de commencer l'enseignement, je fais une très courte bibliographie. Il y a beaucoup de... On va parler donc des psaumes comme chemin pour nous approcher du cœur de Jésus. Le titre exact de ces enseignements, de tout l'ensemble, c'est « À l'école du cœur de Jésus avec les psaumes ». Il y a beaucoup d'ouvrages sur les psaumes. Dans la tradition, il y a des livres de Saint-Augustin, il y a un livre de Xavier Beauchamp, il y a plein de choses. Je recommande particulièrement un livre qui est moins connu, « Lire ensemble les psaumes, la prière de l'homme devant Dieu », et je l'utiliserai pour plusieurs citations, écrit par Claire Pathier, P-A-T-I-E-R. Claire Pathier est une vierge consacrée et qui a été professeur de lettres et qui est une grande exégète et qui anime aussi des pèlerinages en Terre Sainte avec une lecture très assidue de la Bible. Aux éditions Salvator, la collection Bible en main. Claire Pathier, lire ensemble les psaumes, la prière de l'homme devant Dieu. L'ouvrage que j'ai utilisé hier, qui est peut-être un peu plus pointu, mais qui est remarquable, « Les psaumes de la miséricorde ». Alors ça, c'est le texte officiel qui a été publié par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, à l'occasion du jubilé de la miséricorde, donc 2015-2016. « Les psaumes de la miséricorde », donc, aux éditions MAM. C'est un petit ouvrage et qui analyse une dizaine de psaumes de la miséricorde de façon assez pointue, bien exégétique, en commençant d'abord par l'interprétation juive de ces psaumes, mais c'est très très bien écrit, et l'introduction est belle. Alors enfin, vous avez, ça c'est connu, le psautier, ce fameux psautier orange, dont on se sert beaucoup, c'est entièrement la traduction liturgique, ce sont tous les psaumes qu'on trouve par ailleurs dans le bréviaire, mais complet, avec tous les versets que d'habitude on met en crochet ou qu'on ne met même pas du tout dans les bréviaires parce que ce sont des versets souvent d'imprécation. Là, il y a tout, absolument tout. Mais surtout, après les psaumes et les cantiques aussi de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est très très utile, il y a une remarquable présentation des psaumes. Alors vraiment un texte qui est tout à fait remarquable, qui analyse l'historique des psaumes, la manière dont ils doivent être lus, leur sens actuel, etc. C'est une introduction tout à fait remarquable et qui donne des bonnes explications aussi sur certains psaumes qui pourraient un petit peu nous choquer ou autres. Alors, je le recommande particulièrement aussi pour sa présentation. Et aussi, l'avantage de cette petite édition, c'est qu'à la fin de chaque psaume, il propose une petite prière de type un peu pastoral. C'est-à-dire qui actualise un petit peu le psaume ou qui nous le personnalise, une petite prière en lettres très petites. Et ensuite une indication très précieuse en donnant par exemple les versets et disant ce verset-là par exemple s'applique particulièrement à telle fête ou à telle célébration, tel verset pour la Pentecôte, tel verset pour le Vendredi Saint, tel verset, etc. Donc c'est très très bien fait, très pédagogique. Nous allons maintenant nous confier à la Vierge Marie avant d'aborder ce sujet. La Vierge Marie qui, elle, connaissait parfaitement les psaumes et les récitait tout au long de sa vie. Et si souvent avec Jésus et avec Joseph, à chaque pèlerinage qu'il faisait à Jérusalem, par exemple, pour la fête des Tentes ou pour la Pâque. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, les psaumes, chemin privilégié pour approcher et entrer dans le cœur de Jésus. Le psautier, les 150 psaumes, c'est un peu le cœur le cœur de toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament. La tradition exégétique dit que le psautier est comme l'intériorisation poétique et mystique. Certains diront même symphonique. Donc, intériorisation poétique, mystique, symphonique de toute l'Écriture, de l'Ancien Testament d'abord, puisque les psaumes appartiennent d'abord à l'Ancien Testament. Les livres des psaumes sont le cœur même de la prière d'Israël. Et par héritage, ils sont devenus le cœur de la prière de l'Église. Et l'Église prie les psaumes en permanence, tous les jours, et à toute heure du jour et souvent de la nuit. Dans les communautés religieuses, les vigiles ou les matines, on le récite la nuit. Le livre des psaumes, c'est le livre par excellence du dialogue de Dieu avec l'homme. C'est le cœur battant de la parole de Dieu et de la réponse de l'homme. Déjà, première chose, notons que dans la liturgie, alors dans la liturgie catholique de la parole, à la messe, le psaume qui vient après la première lecture intériorise et approfondit justement la première lecture qui le précède. C'est une intériorisation. Et parfois, le psaume, mais pas toujours, mais souvent, le psaume pointe aussi vers la thématique de l'évangile qui est lu après. Mais en tout cas, le psaume est toujours lié au minimum à la première lecture. Et souvent, il prépare à l'évangile. Dans la liturgie, le psaume permet à chacun des fidèles, surtout à la messe, de s'approprier les paroles lues au cours de la liturgie de la parole. Le croyant devient presque le sujet du psaume. Il prend la place du psalmiste, qui s'adresse personnellement à Dieu. Et le croyant accueille, du coup, pour soi-même, ou pour tous ses proches, ou pour tous ceux pour qui il prie, ou tous ceux qu'il représente, il accueille la réponse ou l'invitation de Dieu. Il fait sienne les paroles du psalmiste. Donc, retenons déjà ça, le psaume est un lieu de personnalisation de la parole. Je me sens vraiment impliqué, ou je suis mis au centre, en quelque sorte, face à Dieu. Je ne fais plus partie d'une masse ou d'une foule qui entend, qui reçoit, mais je suis vraiment au centre. Dieu s'adresse à moi et je lui réponds. Alors je peux élargir. Bien sûr, il n'y a aucune prière qui ne soit pas communautaire en même temps. Donc je parle aussi au nom de tous ceux qui m'entourent, de tous ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas la foi, de ceux qui peut-être sont dans la révolte par rapport à la foi. Mais je suis vraiment impliqué, le psaume m'engage. Dans la tradition juive, les psaumes occupent une place essentielle. Une place essentielle dans les écritures juives, c'est-à-dire pour nous, l'Ancien Testament. Dans le judaïsme, on parle, comme vous le savez, des cinq premiers livres de la Bible, qu'en grec on appelait le Pentateuque, parce qu'ils sont cinq, cinq premiers livres de la Bible. Et on considère ces cinq premiers livres de la Bible comme la parole directement donnée par Dieu. C'est vraiment la parole directement donnée par Dieu, écrite par son doigt sur les tables de pierre. À ces titres, les cinq premiers livres, donc je rappelle les titres, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome, les cinq premiers livres sont considérés par toute la tradition juive comme sacré par excellence, car c'est vraiment la parole directe de Dieu, comme pour nous, analogiquement, les évangiles. Dans tout le corpus du Nouveau Testament, ce sont les évangiles qui sont les écrits sacrés par excellence. C'est la personne même du Christ. Donc là, les cinq premiers livres, ce sont les livres sacrés par excellence, car c'est vraiment la parole directe de Dieu, et les livres des prophètes ou les autres écrits n'ont pas le même statut. Alors les 150 psaumes, qui sont précisément répartis en 5 livres par la tradition juive, il y a 5 livres, sont considérés comme la réponse de l'homme à la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui se révèle dans le Pentateuch, dans les 5 premiers livres. Et l'homme répond à travers les 5 livres des psaumes. On peut trouver une sorte, alors ce n'est pas systématique, mais une sorte de correspondance dans des thématiques, disons, qui dominent dans ces 5 livres. Alors ce n'est pas systématique, ce n'est pas ordonné, ce n'est pas par catégorie, mais il y a évidemment la thématique de la création, puis la thématique de l'esclavage, de la libération, de l'élection, et puis de la réception de la loi, etc., qui correspond à chacun des livres. La création, c'est la Genèse, et la réception de la loi, c'est le Deutéronome. Entre-temps, il y a l'esclavage, puis la libération, c'est l'Exode, puis les Nombres, etc. Alors, dans les psaumes, c'est Dieu qui parle. Mais c'est aussi l'homme qui parle, pour répondre, ou pour appeler Dieu. Comme pour le reste de l'Écriture, les psaumes sont bien sûr écritures inspirées, c'est-à-dire qu'ils ont Dieu pour auteur premier. Mais cette primauté de Dieu n'efface pas la liberté créatrice humaine. Elle n'efface pas la psychologie humaine, la croissance vers une connaissance de plus en plus mûre et profonde. C'est-à-dire le fait que Dieu soit l'auteur premier, ce n'est pas une chape qui pèse ensuite sur le rédacteur, qui ne serait plus qu'un médium sans personnalité, pas du tout. Dieu respecte profondément le rythme, l'évolution, la psychologie, la culture, les progrès de cette humanité au fur et à mesure qu'elle accueille cette parole de Dieu. Et en plus, cette primauté de Dieu, comme Dieu premier auteur donc des psaumes, n'enlève pas non plus cette part d'obscurité qui habite aussi le cœur de l'homme. Obscurité due au péché, à la révolte, à la dureté de cœur, etc. Tout ce qui affleure aussi dans les psaumes. Les psaumes, ce n'est pas une série de poésie idéale, entre guillemets angélique, où tout se passe parfaitement sous le regard de Dieu. Non, les psaumes, c'est un enfantement dans la douleur. C'est une croissance. C'est une rédemption à partir d'une situation réelle de péché et dont les psaumes se font aussi l'écho. Donc il y a une part d'obscurité, mais qui est visitée par la lumière. Le simple fait qu'on reconnaisse déjà cette obscurité est déjà le début de la conversion. Lorsque David dit « J'ai péché contre toi », voilà, il est déjà sauvé. Il y aura peut-être une sanction, un châtiment, mais déjà la miséricorde est à l'œuvre. Dieu inspire lui-même dans les psaumes, et c'est ça qui est très beau, Dieu inspire lui-même dans les psaumes les paroles que l'homme lui adressera. Ce sont bien des paroles humaines, mais Dieu le lui inspire. Il ne les dicte pas. Il l'accompagne dans son cheminement. Dieu avec nous, l'Emmanuel. Dieu inspire lui-même dans les psaumes les paroles que l'homme lui adressera. Selon les diverses circonstances de la vie et de la situation du psalmiste ou du peuple. Et pourtant, ce sont bien les paroles de l'homme, et propres à l'homme qui s'expriment dans le psautier. Des paroles d'angoisse, de supplication, des paroles de louange et d'action de grâce, allant jusqu'à l'exultation. Des paroles interrogatives, par exemple le psaume qui dit « Est-ce que la droite du Seigneur a changé? Dieu ne ferait-il plus que rejeter? A-t-il perdu son amour ?» Donc des paroles interrogatives, des paroles de doute. Où es-tu, Dieu? Pourquoi dors-tu? Est-ce que tu m'entends? Puis des paroles de révolte, parfois, des révoltes réelles et même d'imprécations, les versets d'imprécation vis-à-vis des ennemis, ou même des reproches qui sont adressés directement à Dieu, même cela. On peut même dire que Dieu inspire ces paroles qui lui adressent des reproches. Quelle pédagogie! Ça veut dire, dis-moi, n'aie pas peur de me dire ce que tu as sur le cœur. N'essaie pas de faire bonne figure. Ne va pas à l'adoration en lissant, en quelque sorte, la qualité de tes sentiments, de tes pensées, etc. Viens tel que tu es et déverse. C'est un psaume qui dit ça aussi. Devant lui, épanchez votre cœur. Épanchez votre cœur. Il y a des moments où il faut lui dire, Seigneur, je n'y comprends plus rien. Je ne sens même plus que tu es là. Et puis franchement, tu aurais pu m'éviter tu avais le pouvoir de m'éviter cette épreuve, etc. Et voilà un exemple que je vous donne, par exemple le psaume 43. Maintenant, quand je donne les numéros de psaume, je le fais toujours selon la numérotation liturgique. Ça veut dire dans la Bible, c'est une unité de plus, entre parenthèses. Donc le psaume 43, entre parenthèses, 44 dans la Bible de Jérusalem. Et là, le psalmiste n'hésite pas à interpeller Dieu. Je vous le lis. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire, nos ennemis emportent le butin. Tu nous traites en bétail de boucherie, tu nous disperses parmi les nations. Et écoutez bien ça, tu vends ton peuple à vil prix sans que tu gagnes à ce marché. Le psalmiste semble dire, et encore si tu y gagnais quelque chose, mais même pas. Tu vends ton peuple à vil prix et toi, qu'est-ce que tu en gagnes ? Rien. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Lève-toi. Ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face ? Oublier notre malheur, notre misère. Oui, nous mordons la poussière, notre ventre colle à la terre. Debout. C'est l'homme qui dit à Dieu, debout. Alors qu'on pourrait dire c'est plutôt le contraire. L'homme dit à Dieu, debout, viens à notre aide. Rachète-nous au nom de ton amour. Voilà. Voilà un psaume qui reproche des choses à Dieu. Donc le psaume est très concret. C'est la chair qui parle. La chair du psalmiste. Dans les psaumes, c'est bien entendu le psalmiste lui-même qui parle. En l'occurrence, David, selon toute la tradition. Alors nous reviendrons sur cette attribution à David plus tard, je vais dire un petit mot, sur cette attribution à David de tout le psautier, alors que historiquement, évidemment, cela ne peut pas tenir. David n'a pas vécu 900 ans. Mais le pronom « je » du psalmiste, est inséparable du « nous », du peuple tout entier, du peuple d'Israël en l'occurrence. Le « je » du psalmiste le représente bien entendu lui-même dans la situation personnelle où il se trouve. Mais sa destinée personnelle rejoint, ou on pourrait même dire mieux encore, sa destinée personnelle épouse celle du peuple entier. De telle sorte que c'est aussi celui-ci, le peuple, qui fait entendre sa voix, ses supplications, ses actions de grâce. Puis, en d'autres endroits, les paroles humaines deviennent, en revanche, purement porteuses de la parole de Dieu, qui répond, ou qui appelle, ou qui invite, ou qui console. Là, c'est vraiment Dieu qui parle, mais à travers des paroles humaines qu'il a inspirées. Et alors là, ces paroles sont profondément apaisantes. Là, il n'y a plus d'obscurité. C'est la pure consolation, c'est la présence de Dieu qui suscite la joie. Et là aussi, c'est à travers des paroles humaines. Donc c'est Dieu qui parle et c'est l'homme qui parle. Dialogue. Mais pour nous, chrétiens, ce qui confère au psaume une valeur permanente, toujours actuelle et même d'une certaine manière éternelle, et c'est pour cela que l'Église les a pleinement assimilés, les psaumes. Les psaumes sont au cœur de la liturgie de l'Église, vraiment au cœur. Donc ce qui confère aux psaumes une valeur permanente et actuelle et éternelle, c'est que le Christ lui-même a grandi, nourri par les psaumes. Il les a lus, il les a chantés. Rappelez-vous, après l'institution de l'Eucharistie, le dernier repas, au moment où ils vont se rendre de l'autre côté du Cédron, au jardin des Oliviers, il est dit « après le chant des psaumes, ils partirent ». Donc il a chanté les psaumes, mais surtout il les a vécus. Les psaumes font partie de sa chair. Les psaumes sont au cœur de son cœur, pourrait-on dire. Rappelons-nous, 3 des 7 dernières paroles du Christ en croix sont tirées des psaumes. Tout d'abord, le cri de Jésus en croix dans l'évangile de Jean, « J'ai soif ». C'est tiré du psaume 68, entre parenthèses 69, où le psalmiste dit « Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre ». Saint Jean d'ailleurs le dit explicitement à ce passage-là en Jean 19. « Pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit « J'ai soif ». Alors il faut bien comprendre, Jésus en croix n'a pas dit « Ah, il faut que je trouve un verset qui montre que l'Écriture est bien accomplie ». Bien sûr que non. Là, c'est un cri qui sort de son cœur broyé par la souffrance. Mais Jean a compris que tout cela faisait partie d'une cohérence, d'un plan de Dieu. Et donc, Jean dit, pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, j'ai soif. Et dans ce passage de l'Évangile de Jean, chapitre 19, le vinaigre est justement bien présent. On lui donna du vinaigre. Et là, on rejoint complètement le psaume, littéralement. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Deuxième parole, parmi les 7 dernières paroles du Christ en croix, tirées du psaume, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est le tout début du psaume 21, entre parenthèses 22, que Jésus clame en croix. Et enfin, dernière parole, selon l'évangile de Luc, « Père, en tes mains je remets mon esprit. » Ça, c'est le psaume 30, entre parenthèses 31, que l'Église récite tous les mercredis soirs accomplis. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Verset que d'ailleurs Jésus a appris comme enfant, déjà comme petit enfant. C'est la prière que l'enfant juif récite avant de s'endormir et que ses parents lui apprennent. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Et alors il le redit justement sur la croix. Ce verset sert aussi chaque soir aux répons des complis. Donc après la lecture brève, il y a toujours un répons et invariablement le refrain c'est « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ». Alors encore une fois, je le redis, Jésus en croix ne les a pas cités pour illustrer ou expliciter quelque enseignement ou autre, ces versets ont jailli tout naturellement de son cœur broyé par la souffrance. Les psaumes étaient inscrits dans sa chair, comme nous l'avons déjà dit. Donc en lui, en Jésus, en son cœur, le dialogue homme-Dieu, ou le dialogue Dieu-homme, soit de façon ascensionnelle, soit de façon descente, le dialogue homme-Dieu ou Dieu-homme atteint sa plénitude dans le cœur de Jésus. Le descendant de David, qui est le Christ, devient le psalmiste maintenant, par excellence. Il accomplit chaque parole des psaumes. Il l'accomplit par sa destinée, par son être même. Chaque parole des psaumes est accomplie dans le Christ. Et même un des sommets de la révélation qui nous révèle l'identité du Fils incarné, la plus haute des révélations. On ne peut pas imaginer plus haute, à savoir la révélation qui vient du haut des cieux, la voix du Père lui-même, lors du baptême de Jésus dans le Jourdain. Eh bien, même cette révélation, donnée par la voix du Père et qui vient du haut des cieux, est tirée d'un psaume, du psaume 2, et s'accomplit pleinement à ce moment-là en Jésus. « Tu es mon Fils ». « Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » C'est le psaume 2, ça. Et qui s'applique dans le psaume 2 par métaphore. Il ne s'agissait pas encore d'un fils véritablement substantiel de Dieu. Ça, la tradition juive n'a pas pu l'accueillir. Mais le fils, le roi, recevait le titre de Messie ou de fils. Le roi était par excellence comme un fils adoptif de Dieu. Donc tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Mais là ça s'applique à Jésus. Et donc le Père utilise ce verset de psaume pour la plus haute révélation qu'on puisse imaginer. Il n'y a pas de révélation plus grande que la voix du Père qui nous dit, qui dit à Jésus, en l'occurrence ici, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Le Christ est à la fois le Dieu qui s'adresse à son peuple, mais il est aussi l'homme qui appelle, supplie, exulte, et même qui demande pardon ou qui accuse ses péchés. Sur ce dernier point, soyons très clairs, bien entendu, Jésus, en lui, il n'y a pas la moindre connivence avec le péché. Mais pour nous sauver, il a été comme identifié au péché. Saint Paul n'hésite pas à dire que Dieu l'a fait péché pour nous. Péché substantif, pas le verbe. Péché, donc avec E accent aigu à la fin. Dieu l'a fait péché pour nous. Il a identifié au péché pour nous. De sorte qu'il représente, durant son ministère et tout au long de son acte rédempteur, il représente aussi l'homme qui ploie sous le poids de la faute. Et il communique par sa grâce aux pécheurs la grâce d'un repentir de plus en plus vrai et la grâce d'un désir de plus en plus authentique de conversion. Donc il fait bien sienne les paroles qui demandent pardon ou qui reconnaît les péchés. Même des choses qui évidemment ne peuvent absolument pas s'accomplir avec le Christ, ne peut pas le concerner, pardon, directement. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Alors là, ça va absolument pas, ça ne concerne ni Jésus ni Marie, bien l'Immaculée. Mais il descend dans la misère humaine et il la prend sur lui. Lui, le plus beau des enfants des hommes, accepte de se laisser défigurer, comme le serviteur souffrant dont parle Isaïe. Il n'avait plus figure humaine. Et on se détournait de lui. Il est devenu laid, la laideur du péché, la défiguration du péché. Donc c'est bien cela, il s'identifie au péché. Donc il représente l'homme qui ploie sous le poids de la faute et il communique la grâce au pécheur d'un repentir de plus en plus vrai et la grâce d'un désir de plus en plus authentique de conversion. Disons-le peut-être plus simplement, en bref, il a pris la place du fils prodigue et que c'est par lui qui prend la tête de tous les fils prodigues que nous sommes, c'est lui qui prend la tête et c'est par lui que nous sommes entraînés vers le Père qui nous attend pour nous étreindre. La parabole du fils prodigue. En fait, nous sommes tous des fils prodigues, mais nous étions complètement incapables du moindre geste du retour vers Dieu, sans la grâce. Incapables. On serait restés parmi les cochons. En fait, c'est le Fils de Dieu qui vient nous rejoindre dans cette extrême misère, qui la prend sur lui et qui nous donne la force de nous relever et d'aller vers le Père et de dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, j'ai perdu la dignité de fils. » C'est lui en fait, parce qu'il prend la place du fils prodigue, mais en même temps il est le fils de Dieu, totalement innocent, immaculé, sans la moindre connivence avec le péché, comme il dit « Sur moi le démon n'a aucune emprise ». Mais il le dit, c'est très intéressant ça, dans le discours d'adieu de Jean. « Sur moi, le prince de ce monde n'a aucune emprise. » Et pourtant, les événements semblent dire exactement le contraire. Quelques heures plus tard, il va rentrer dans la passion. Donc, « Sur moi, il n'a aucune emprise, mais, dit Jésus, il faut que le monde sache que j'aime le Père. Et par amour du Père et par amour de mes frères, je vais le laisser avoir une emprise, mais il n'aura évidemment pas le dernier mot. » Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est par Jésus qui devient pour nous le Fils prodigue que par grâce, nous pouvons nous lever et aller vers le Père et dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et c'est en Jésus et uniquement en lui, on pourrait même dire dans son cœur, que le Père nous étreint. Le lieu de l'étreinte du Père, avec les fils prodigues que nous sommes, c'est le lieu de l'étreinte du Père, d'abord avec le Fils, par excellence, le Fils, qui a pris sur lui la condition des fils prodigues. Alors le Père l'accueille et l'étreint sur son cœur, et en lui, il nous étreint tous. Donc le cœur de Jésus est le lieu de la rencontre totalement accomplie de l'amour divin avec l'amour humain. Le lieu de l'étreinte, avec l'amour humain racheté. Donc je répète cette phrase, le cœur de Jésus est le lieu de la rencontre totalement accomplie de l'amour divin avec l'amour humain, le lieu de l'étreinte. Et donc en lui, dans le Christ, c'est toute l'Église et chacun des croyants qui deviennent le psalmiste par excellence. Et même l'homme éloigné de la foi, qui est rejoint par le Christ et par l'Église dans sa destinée, dans ses aspirations profondes, comme dans ses angoisses. Même l'homme qui n'a pas la foi pourrait se reconnaître parfois dans les psaumes, pour dire « oui, vraiment, c'est la situation que je vis. Les ennemis me cernent, le puits se referme sur moi. » Ou au contraire, « il m'a libéré. J'étais dans un danger mortel, mais il m'a libéré. » Tu as entendu les prières de ma bouche. Je te rends grâce, Seigneur. Je te chante en présence des anges. Même mystérieusement, l'intellect de l'homme sans la foi ne le fera pas, mais son cœur profond peut-être le fera. Cette zone qu'on peut appeler la zone spirituelle qu'il y a en tout homme et dont il est souvent inconscient. Donc c'est tout homme qui peut devenir, dans des circonstances particulières, ici ou là, qui peut devenir le psalmiste. En lui, le Christ, nous avons accès à cette plénitude. À cette plénitude et à cette perfection avec lesquelles il a vécu chaque verset des psaumes. Chaque verset des psaumes. Y compris ce qui semblerait les plus incompatibles avec l'esprit de l'Évangile. Même les psaumes d'imprécation. Mais ça, j'y reviendrai. En vertu des sacrements et au plus haut point du sacrement de l'Eucharistie, les psaumes qui sont au cœur du Christ deviennent, du coup, le cœur de notre cœur. Les psaumes, pour reprendre les paroles de certains éminents auteurs spirituels, les psaumes sont déjà la voix du Christ dans l'Ancien Testament. La voix du Christ dans l'Ancien Testament. Ils sont déjà comme une première étape de l'incarnation. C'est-à-dire que le Verbe divin, auteur premier des psaumes, parle déjà, en tant qu'auteur divin, il parle déjà et il aime déjà à l'avance avec un cœur d'homme. tel qu'il recevra ce cœur d'homme lors de l'incarnation. Et quand je dis qu'il aime avec un cœur d'homme, là je reprends une phrase très connue de la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II, où il nous est dit que le Verbe de Dieu a voulu travailler avec des mains d'hommes, il a voulu penser avec une intelligence humaine, il a voulu nous aimer avec un cœur d'homme. Eh bien les psaumes c'est déjà ça, à l'avance. Bien sûr, ce n'est pas encore l'incarnation, mais c'est une étape de l'incarnation. Le Verbe divin, auteur premier des psaumes, parle déjà et aime déjà à l'avance avec un cœur d'homme, avec un langage d'homme, dans les psaumes, avec ce cœur humain qu'il recevra effectivement lors de l'incarnation. Précisons encore, dans le Christ, c'est bien sûr l'homme qui parle à Dieu, avec des sentiments humains, dans le Christ, et un langage humain. L'homme parle à Dieu, à travers le Christ, avec des sentiments humains et un langage humain. Mais c'est aussi Dieu qui parle à l'homme en empruntant des sentiments et un langage humain, comme je viens de le dire. Là encore, c'est déjà le mystère de l'incarnation par laquelle Dieu se rend tout proche et solidaire de la condition humaine jusqu'à faire sienne des expressions qui en soi seraient incompatibles avec la condition divine. Je prends un exemple, le psaume 80, entre parenthèses, donc 81 dans la Bible, où Dieu se fait suppliant, presque mendiant. Alors tout d'abord, c'est le psalmiste qui commence par parler. « J'entends des mots qui m'étaient inconnus. » Ça, c'est le psalmiste qui parle. Et pour cause, des mots qui m'étaient inconnus, et c'est Dieu qui va parler. Et c'est comme si le psalmiste disait « Je ne m'attendais pas à ce que Dieu me parle comme ça. » D'une façon aussi proche, aussi humble, aussi compatissante. Alors maintenant, c'est Dieu qui parle. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Là, il parle du psalmiste, mais aussi du peuple tout entier. Il s'adresse à Israël. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, là, il s'adresse à Israël. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. Je répondais caché dans l'orage. Référence au livre de l'Exode. Le Sinaï, la grande révélation de Dieu, dans le feu, l'orage, le tonnerre, etc. « Je t'éprouvais près des eaux de Meriba, le lieu de la querelle, de l'amertume, mais là aussi où l'eau a jailli du rocher. Je t'éprouvais près des eaux de Meriba. Écoute, alors c'est Dieu qui parle, écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. Tu ne serviras aucun dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ouvre ta bouche, moi je l'emplirai. » Il traite Israël là, réellement dans sa tendresse maternelle et paternelle comme un nourrisson. Ouvre la bouche, c'est tout ce que je te demande et moi je l'emplirai. Et puis voilà, mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Voilà. En soi, ce n'est pas compatible avec la majesté divine, ça. Dieu sait bien, il peut tout. Mais là, il prend vraiment des sentiments humains. Il prend le langage d'un fiancé offensé. Offensé et dont l'attente a été déçue par l'attitude de sa fiancée. Alors, ça, la situation peut être aussi inversée. Hein. Ça, c'est, la fiancée peut être choquée par son fiancé. Voilà. Donc, je fais pas de. C'est pas toujours le fiancé qui est offensé. C'est aussi parfois la fiancée. Je fais très attention à notre époque de ne pas donner de. Voilà. Alors, donc, je l'ai livré qu'il aille et suive ses vues. Voilà, qu'il aille, qu'il fasse selon sa tête. Mais ça ne dure pas longtemps. Dès le verset suivant, « Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierai ses ennemis. Contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. Mes adversaires s'abaisseraient devant lui. Tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirai de la fleur du froment. Je le rassasirai avec le miel du rocher. Ah, si mon peuple m'écoutait. » Est-ce que vous ne reconnaissez pas déjà à l'avance Jésus pleurant sur Jérusalem ? Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, et vous n'avez pas voulu. Alors votre maison va vous être laissée déserte. C'est exactement ça ce qu'il y a dans ce psaume-là. C'est déjà la voix du Christ, comme je vous l'ai dit, à l'avance, dans l'Ancien Testament. C'est exactement ça. Maintenant, il nous reste un petit peu de temps, glanons quelques exemples de versets de psaumes, pour le moment, annonçant d'une manière ou d'une autre le mystère du cœur de Jésus transpercé. Alors là, je ne vais pas être exhaustif, je prends toujours la thématique ici de cœur de Jésus, d'où jaillit la source, où les fleuves d'eau vive. Parfois c'est une source, comme il le dit à la femme de Samarie, l'eau que je lui donnerai deviendra source vive, qui jaillit pour la vie éternelle, ou alors, dans un autre passage de l'évangile de Jean, au contraire, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint. Alors, cœur de Jésus, d'où jaillit la source, ou les fleuves d'eau vive. Nous avons le psaume 35, entre parenthèses 36, 35 dans la liturgie. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'aux nues, ta vérité. Ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. Ça aussi, c'est très beau. C'est extrêmement réconfortant. Ta justice, qui surpasse tout, une haute montagne, elle est en fait inaccessible en soi. Mais tes jugements, le grand abîme, c'est-à-dire que tu descends au plus profond des abîmes de la condition humaine, qui est un abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes, qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Là, nous avons en filigrane le festin, le banquet des noces éternelles de l'agneau dans la Jérusalem céleste, déjà. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. Mais alors là, en toi est la source de la vie, et surtout, au torrent du paradis, tu nous abreuves. Ce qui est annoncé là, c'est l'eau, enfin, de façon implicite, c'est l'eau qui jaillit du côté ouvert de Jésus, qui irrigue la nouvelle création, le jardin, un nouveau jardin. Il a été crucifié dans un jardin, mais c'est dans un jardin aussi qu'il va être enseveli, et c'est dans le même jardin qu'il va ressusciter. Et donc l'eau symbolise cette vie nouvelle. Il en sortit du sang et de l'eau. Et cette eau qui jaillit du cœur de Jésus, dans la douleur du Golgotha, va se transfigurer en vision de gloire dans l'Apocalypse, où le même Saint Jean dira, au chapitre 22 de l'Apocalypse, « L'ange me montra le fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. » C'est la même vision, mais transfigurée en gloire. La croix est devenue le trône et l'agneau immolé est devenu l'agneau vainqueur. Mais c'est exactement, Jean n'aurait jamais pu écrire ce passage de l'Apocalypse s'il n'avait pas été le témoin de ce qu'il a vu au Golgotha. Donc ce qu'il a vu au Golgotha, c'est le chapitre 19 de son évangile, et là, l'Apocalypse, chapitre 22. Au torrent du paradis, tu les abreuves. Cette eau qui jaillit dans la cité céleste, avec de part et d'autre des arbres qui portent du fruit. Là, l'Apocalypse se réfère à Ézéchiel 47, versets 1 à 12, cette eau qui jaillit du sanctuaire, qui coule du sanctuaire, et qui devient peu à peu, qui grandit, et qui devient un fleuve infranchissable, et qui donne la vie à tout ce qu'elle rencontre sur son passage. De sorte que même la mer salée, la mer morte, devient vivante, avec toutes sortes de poissons, et qu'il y a de part et d'autre dans ce désert, dans cette désert qui est la vallée de la Araba, donc au bord de la mer morte, 400 mètres au-dessous du niveau de la mer, de la grande mer, donc la Méditerranée, eh bien ce désert devient un véritable verger, avec des arbres de part et d'autre du fleuve qui donnent du fruit, un fruit qui demeure, qui se renouvelle tous les mois. Au torrent du paradis, tu les abreuves. Il y a tout ça qui est sous-jacent déjà là-dedans. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Il est impossible que Jésus n'ait pas eu, mais constamment, cette parole en lui. Surtout lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » En ta lumière, nous voyons la lumière. Donc voilà pour un exemple de psaume. Maintenant, vous avez le psaume 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Alors attention, le psaume 1, il a un statut particulier. Il ne fait pas encore officiellement partie du psautier, il est considéré comme l'introduction. En fait, le psaume 1, et c'est là qu'il répond, c'est là qu'il y a une correspondance très forte justement avec le Pentateuque, avec le Deutéronome, le psaume 1 nous met devant le choix fondamental. Choisis la vie ou choisis la mort. Choisis le bien ou choisis le mal. Tu as un choix. Ça, c'est dans le Deutéronome. Et donc, le psaume 1 nous met devant l'attitude fondamentale, le choix possible que l'homme doit faire dans sa liberté, face à Dieu. Donc, c'est une introduction, c'est un préambule. Après ça, le psautier se déroule. Et puis, comme je l'ai dit hier, mais je l'aurais dit simplement aujourd'hui, je l'ai dit hier dans l'enseignement, le dernier psaume aussi, il est un petit peu en dehors du psautier, le psaume 150. Parce que c'est une doxologie, c'est-à-dire, c'est comme dans la liturgie de l'Église, à la fin de chaque psaume, on dit gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, etc. Eh bien, tout le psaume 150 est une glorification de Dieu qui rassemble tout l'ensemble du psautier. Donc vous avez l'introduction avec le psaume 1 et la conclusion glorifiante, je dirais, avec le psaume 150. Donc ces deux psaumes ont un statut un petit peu à part. Donc heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Dès le psaume 1, nous est mystérieusement annoncé d'ailleurs, du coup, le psaume qui sera le plus long du psautier, le psaume 118 et entre parenthèses 119, qui n'est rien d'autre que le murmure de la loi, jour et nuit, constamment. C'est le psaume le plus long. Alors maintenant, ce qui nous concerne ici, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Voilà le thème de l'arbre. On reconnaît ici, d'une part, l'arbre de vie dans le jardin de la Genèse. Et puis le fleuve qui coulait en Éden. Un fleuve coulait en Éden, tout près de l'arbre de vie, au milieu du jardin. L'arbre de vie, attention, l'arbre de vie, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie est entièrement positif et il a été fait pour l'homme. C'est après le péché que l'accès à l'arbre de vie a été interdit pour l'homme, provisoirement, en attendant le nouvel arbre de vie qui est le Christ. Mais donc, vous avez là, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. C'est l'arbre de vie et le fleuve qui coule dans le jardin d'Éden. Ce sont aussi les arbres de la prophétie d'Ézéchiel au bord du fleuve qui porte du fruit en son temps et un fruit toujours renouvelé et jamais son feuillage ne meurt. Donc c'est déjà l'arbre qui donne la vie parce qu'il est au bord du ruisseau, qu'il est au bord de l'eau, qu'il est proche du courant. Il ne craint pas une année de sécheresse. Tout ce qu'il entreprend réussira et son feuillage ne meurt jamais. Et donc ce sont aussi ces arbres, on retrouve les arbres de vie plantés près du fleuve dans l'Apocalypse chapitre 22, de nouveau. Donc c'est toute cette thématique. Mais alors, la liturgie de l'Église qui actualise toujours les choses en Christ, elle voit dans chaque verset du psaume comme une annonce de l'accomplissement en Christ, et bien dans l'antienne du bréviaire, pour ce psaume 1, qu'on lit toujours dans l'office de lecture le premier dimanche, donc le dimanche de la première semaine, il y a cette très belle antienne, « L'arbre de vie, c'est ta croix, Seigneur. » Voilà. L'arbre de vie auquel nos premiers parents n'ont plus pu avoir accès à cause du péché originel, c'est maintenant le Christ en croix, sur la croix. L'arbre de vie, c'est la croix, et Jésus en est le fruit. Non plus un fruit qui donne la mort, mais un fruit qui donne la vie et qui engloutit la mort. L'arbre de vie, c'est ta croix, Seigneur. Voyez comment l'Église tout de suite interprète, actualise et donne sa plénitude de sens au psaume. Et ça, dès le premier psaume, voyez, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Ça s'applique au Christ, et puis ça s'applique à l'Église, et puis ça s'applique à chacun de nous, à chacun des croyants. Jésus le dira d'ailleurs, nous sommes appelés à porter du fruit, dit-il dans l'évangile de Jean au chapitre 15, et un fruit qui demeure. Alors maintenant, nous allons encore poursuivre un petit peu en glanant un petit peu quelques détails. Là, je m'inspire surtout du remarquable livre de Claire Pathier. Alors, tout d'abord, des écrits de la tradition sur les psaumes. Ça nous donnera vraiment le désir, le goût de vouloir plonger dans ce livre magnifique. Jean Cassien, qui est un moine de Provence, 5e siècle. Celui qui se nourrit sans cesse au pâturage des Écritures et qui reçoit vraiment en lui tous les sentiments des psaumes en viendra à les chanter non plus comme composés par le prophète, mais comme sortant de lui-même, comme sa prière propre. Et il reconnaîtra que non seulement jadis ils furent vivants et réels, ils furent vivants et réels par ou dans le prophète, mais que chaque jour ils se réalisent et s'accomplissent en lui-même. C'est ce que je vous disais, donc cette personnalisation. Donc le croyant qui lit le psaume reconnaîtra que non seulement ces psaumes furent vivants, et concernait le psalmiste dans sa situation concrète de l'époque, mais que chaque jour, ces psaumes se réalisent et s'accomplissent en lui-même. Les psaumes, c'est une espèce de permanent diagnostic de notre état intérieur. Parfois, on se reconnaît, on dit oui, mais vraiment, j'ai ces sentiments-là aujourd'hui. C'est réconfortant. On a l'impression que je suis complètement sec, que Dieu est absent, que je suis médiocre, que je suis même plus capable de prier. Eh bien, quand je lis un psaume où le psalmiste semble suffoqué, dire « Viens, parce que même mon cœur, finalement, je n'ai plus de désir. » C'est ce psaume admirable. « Qu'ai-je à espérer sur la terre ? Plus que même avec toi, qu'est-ce qu'il y aura au ciel pour moi si même avec toi, je n'ai plus aucun désir sur la terre ? Mon cœur et ma chair sont usés. » Combien de fois on n'a pas ça, cette sorte de saturation ? Eh bien, de le lire, c'est réconfortant. C'est-à-dire que Dieu a bien compris ce qui se passe en moi. Il a inspiré ses paroles pour me réconforter, pour me dire, mais ne t'inquiète, comme un bon médecin, ne t'inquiète pas. Je sais ce que tu vis. Donc cette actualisation constante. Alors ça vaut aussi pour les psaumes de joie, etc. Il y a des moments où nous sommes dans la joie, une prière a été exaucée. Ou alors si nous sommes dans la peine, ça nous donne une formidable espérance. De dire, oui, ben, cette peine, cette épreuve, cette contrainte ou cette contrariété n'aura pas le dernier mot. C'est quand même le Seigneur qui va, voilà, triompher. Rien n'est impossible à Dieu. Alors maintenant, Claire Pathier cite aussi un très beau passage. C'est un texte de Pidis, qu'on peut d'ailleurs lire dans le bréviaire, le jour de la fête de Saint Pidis, à savoir le 20 août, le 21, pardon, le 20 c'est Saint Bernard, le 21 août. Et voilà ce que Pidis écrit en 1911, mais en fait il cite Saint Athanase. Il cite Saint Athanase. Certes, toute la Sainte Écriture de l'Ancien comme du Nouveau Testament, est inspiré par Dieu et utile pour l'enseignement, ainsi qu'il est écrit. Néanmoins, le livre des psaumes, comme un paradis contenant tous les fruits des autres livres, propose ses chants et ajoute ses propres fruits aux autres, dans la psalmodie. Je pense que pour celui qui chante les psaumes, ils sont comparables à un miroir où il peut se contempler lui-même, ainsi que les mouvements de son âme, et psalmodier dans ses dispositions. Alors là, Athanase reprend ce que je viens de dire. Le psaume, c'est un miroir pour chacun de nous, un miroir de notre âme, un diagnostic permanent. Et en même temps, donc, Athanase dit bien que c'est le livre où il y a le plus de fruits. C'est un paradis en soi. À l'intérieur même des Écritures, c'est comme un jardin, un paradis contenant tous les fruits des autres livres. Il propose ses chants et ses propres fruits aux autres, justement dans la psalmodie. Maintenant, par ailleurs, il faut rappeler que le livre des psaumes est le livre de l'Ancien Testament qui est le plus cité dans le Nouveau Testament, le plus cité. Comme pour nous signifier que ces prières sont d'émouvantes prophéties concernant la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il nous faut dire encore un mot sur les psaumes, les versets d'imprécation. Que pour des raisons pastorales, la liturgie de l'Église, dans les bréviaires, pas dans le psautier là, dans les bréviaires, elle omet cela en temps ordinaire, et pour le temps de carême, elle met ça en crochet. Et c'est vrai que, comme le dit admirablement, et ça je vous recommande encore une fois, l'introduction des psaumes. Alors, le texte dont je vous parle dans ce psautier vient après les psaumes et les cantiques. Il vient à la fin. Eh bien, il parle des psaumes d'imprécation. Il dit, en fait, il semble qu'il y a plein de versets qui semblent résister à la christianisation des psaumes. Comment voulez-vous que les psaumes qui demandent la mort des ennemis, qu'on les fracasse sur les rochers, que je ne sais pas quoi, ou qu'ils soient pour l'éternité dans la boue, je ne sais pas quoi. Comment est-ce que vous voulez que ce soit compatible avec l'évangile qui dit « Aime ton ennemi, priez pour ceux qui vous persécutent, etc. Bénissez et ne maudissez pas. » Eh bien, ce n'est pas si simple que ça, justement. Tout d'abord, n'oublions pas que Jésus, quand même, il avait des saintes colères. Et que son discours aux pharisiens et aux docteurs, dans les imprécations, dans l'évangile de Matthieu, bien, pardonnez-moi l'expression, c'est pas piquer des vers non plus. Hein? Ça ne ruisselle pas de tendresse et de miséricorde quand il dit « engeance de vipère, hypocrite, tombeau blanchi ou sépulcre blanchi », je ne sais pas quoi. Donc, il savait aussi être, mais jamais sur les personnes. Et voilà en quoi les versets d'imprécation, puis je m'arrêterai là après, la suite on le verra cet après-midi, parce qu'il y a encore une suite dans cette longue introduction que je fais. Alors, encore une fois, les psaumes ne sont pas le reflet d'un monde parfait, où tout le monde fait le bien sous le regard de Dieu. Ils sont le fruit de l'expérience de celui qui connaît le péché et croit en la puissance de salut de son Dieu. Le livre des psaumes, en effet, nous propose de prendre en compte tout l'univers du péché et ses conséquences, pour les transformer en louanges, en les présentant devant Dieu. Il nous enseigne comment lever les yeux pour attendre son pardon, son secours, sa force de salut. Alors du coup, on comprend aussitôt que l'ennemi qu'il faut à tout prix écraser, dans les psaumes, ce n'est pas un homme, mais bien le mal et le péché sous toutes ses formes, selon la parole de l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Alors, on veut bien que si l'Église, pour des raisons pastorales, parce qu'elle ne peut pas tout expliquer, a omis les psaumes d'imprécation pour ne pas heurter la sensibilité des fidèles, il reste que ce n'est qu'une mesure pastorale. D'un point de vue exégétique et même théologique, il n'est pas juste de ne pas dire ces versets d'imprécation, même lorsqu'ils sont terribles, effectivement. Quand David parle des impies à écraser, il s'agit d'abord de l'impiété qu'il constate en lui et qui lui fait horreur. Le chant des psaumes est une déclaration de guerre sans merci à tout ce qui fait obstacle à la rencontre avec le Seigneur. Selon ce qu'il est écrit, en l'occurrence dans le psaume 138, entre parenthèses 139, « Seigneur, n'ai-je pas en haine qui te hait, en dégoût ceux qui se dressent contre toi ?» Je les hais d'une haine parfaite. Ce sont pour moi des ennemis. Alors, d'abord, ça me concerne moi. C'est le péché qui travaille en moi, comme dit saint Paul. Je voudrais faire le bien, je n'y arrive pas, parce que je découvre en moi une loi, la loi du péché, qui est plus forte, qui me pousse à faire ce que je ne veux pas. Donc c'est d'abord ça. Mon principal ennemi, c'est moi-même. Mes sentiments, ce qu'on appelle les persécuteurs invisibles, comme disent les pères de l'Église. Donc c'est ça pour nous. Pour nous, chrétiens, dans les psaumes, il y a aussi cette lutte contre nos persécuteurs invisibles. Et surtout, à commencer par le démon. Alors c'est lui, de même qu'à la vigile pascale, on dit « je le rejette » au moment du baptême, ou « je renonce », etc. Là, les psaumes d'imprécation, c'est une manière de rejeter le démon. Voilà, qu'il soit pour l'éternité écrasé, voilà. Alors c'est aussi une lutte contre tel, il ne faut pas non plus, idéaliser tout ça. On est dans le concret. C'est une lutte contre tel ou tel élément qui m'agresse chez l'autre. L'autre peut avoir un comportement qui m'agresse, des défauts qui m'agacent profondément et qui m'agressent, et qui parfois me prennent la tête, toujours de façon excessive, justement, parce que moi-même, je suis blessé. Et parce que moi-même, je ne supporte pas la poutre qu'il y a en moi, Je ne la supporte pas, donc je m'en prends à la paille qui est dans l'autre. C'est une façon de rejeter en moi ce que je n'aime pas. Mais donc, il y a tel ou tel élément qui m'agresse chez l'autre. Alors là aussi, je peux dire ces versets d'imprécation, non pas contre sa personne, mais contre ses tendances à lui, soit pour que je les relativise, pour que l'Esprit-Saint me dise avec douceur, mais tu sais, ce n'est pas très grave, et puis regarde-toi finalement, mais il le dira avec beaucoup de douceur, finalement, est-ce que toi non plus, etc. Soit pour que mon frère en soit objectivement libéré, lui aussi, parce que ça ne le rend pas heureux. Et c'est comme ça qu'il faut peut-être comprendre le fameux psaume 109, entre parenthèses 110, que l'Église récite tous les dimanches soirs à Vêpres. Le psaume 109, juste le verset 2. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Il y a deux manières de le comprendre, ça. Je m'arrête tout de suite, dans deux minutes, même pas. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Il y a deux manières de le comprendre. Avec ton sceptre, va vaincre enfin cet ennemi qui te résiste et que ce soit sa défaite complète. Mais la manière plus chrétienne de le comprendre, le sceptre de ta force, qu'est-ce que c'est ce sceptre pour nous ? C'est la croix. La croix du Christ, c'est là le sceptre de sa vraie force, pas la force humaine triomphaliste, la force de l'amour. Et là, ce sceptre-là peut changer le cœur de mon ennemi. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire « écrase mon ennemi », mais « domine jusqu'au cœur de l'ennemi », ça ne veut pas dire « écrase son cœur », mais par le sceptre de la croix, vient libérer mon ennemi de ce qui l'encombre dans son cœur, de ce qui obscurcit sa vie, vient le libérer de sa haine, de sa rancune, de ses ambitions, de sa jalousie, etc., de son orgueil. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Et comment tu le fais ? En priant pour lui, en l'aimant, en appelant sur lui la bénédiction et non pas la malédiction, comme dit l'Évangile. Priez, ou Paul, priez pour ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non du mal. Voilà, c'est ça, dominer jusqu'au cœur de l'ennemi. Ça, c'est la manière chrétienne de le faire.